Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial. À l'occasion du 50e anniversaire d'Apple, le 1er avril, je tenais à clôturer cette série avec Steve Jobs et son fameux discours qu'il avait prononcé à l'université de Stanford en 2005. Un discours très célèbre. Et du coup, je l'ai traduit en français et je l'ai adapté avec une synthèse vocale. Et quelle meilleure manière que de clôturer la série Starbucks, n'est-ce pas?
Je suis honoré d'être avec vous aujourd'hui pour votre remise de diplôme dans l'une des plus grandes universités du monde. Je n'ai jamais été diplômé d'une université. À vrai dire, c'est aujourd'hui ce qui se rapproche le plus, dans ma vie, d'une cérémonie de remise de diplôme. Aujourd'hui, je veux vous raconter trois histoires de ma vie. C'est tout. Rien d'extraordinaire. Juste trois histoires. La première histoire parle de relier les points. J'ai abandonné Reed College après les 6 premiers mois, mais je suis resté comme auditeur libre pendant environ 18 mois avant d'arrêter complètement. Alors pourquoi j'ai abandonné? Tout a commencé avant même ma naissance. Ma mère biologique était une jeune étudiante diplômée, célibataire, et elle avait décidé de me faire adopter. Elle voulait absolument que je sois adopté par des parents diplômés de l'université. Tout était donc prêt pour que je sois adopté à la naissance par un avocat et sa femme. Sauf qu'au dernier moment, ils ont décidé qu'ils voulaient une fille. Mes parents, qui étaient sur liste d'attente, ont reçu un appel au milieu de la nuit. Nous avons un petit garçon inattendu. Est-ce que vous le voulez? Ils ont répondu, bien sûr. Ma mère biologique a découvert plus tard que ma mère adoptive n'avait jamais été diplômée et que mon père adoptif n'avait même pas terminé le lycée. Elle a alors refusé de signer les papiers d'adoption. Elle n'a changé d'avis que quelques mois plus tard, quand mes parents ont promis que j'irais à l'université. 17 ans plus tard, je suis effectivement entré à l'université. Mais j'ai choisi naïvement une université presque aussi chère que Stanford. Toutes les économies de mes parents y passaient. Au bout de 6 mois, je n'y voyais toujours aucun sens. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie, ni de ce que l'université allait m'apporter pour le comprendre. Et pourtant, je dépensais tout l'argent que mes parents avaient économisé toute leur vie. Alors j'ai décidé d'abandonner. J'ai choisi de faire confiance au fait que tout finirait par s'arranger. Sur le moment, c'était plutôt effrayant. Mais avec le recul, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. À partir du moment où j'ai abandonné, j'ai pu arrêter les cours obligatoires qui ne m'intéressaient pas et commencer à suivre ceux qui me passionnaient vraiment. Ce n'était pas toujours facile. Je n'avais pas de chambre, je dormais par terre dans les chambres d'amis. Je récupérais des bouteilles de coca pour les consigner et m'acheter à manger. Et je marchais plus de 10 km tous les dimanches soirs pour aller manger un bon repas gratuit au temple à Krishna. Et j'adorais ça. Beaucoup de ce que j'ai découvert en suivant ma curiosité et mon intuition s'est révélé précieux par la suite. Je vais vous donner un exemple. Reed College proposait à l'époque l'un des meilleurs cours de calligraphie du pays. Sur tout le campus, chaque affiche, chaque étiquette, chaque document était calligraphié avec soin. Comme j'avais abandonné les cours classiques, j'ai décidé de suivre ce cours. J'y ai appris les typographies avec et sans empattement, les variations d'espacement entre les lettres, tout ce qui fait la beauté d'une mise en page. C'était subtil, élégant. Mais 10 ans plus tard, quand nous avons conçu le premier Macintosh, tout m'est revenu. Et nous avons intégré tout cela dans le Mac. Et c'est ainsi que le Mac est devenu le premier ordinateur avec une typographie vraiment soignée. Si je n'avais jamais assisté à ce cours, les ordinateurs n'auraient probablement jamais eu cette richesse de style typographique ou ces polices proportionnelles. Et comme Windows a simplement copié le Mac, il est probable qu'aucun ordinateur ne les aurait eus. Si je n'avais pas abandonné, je n'aurais jamais suivi ce cours de calligraphie. Et les ordinateurs personnels n'auraient peut-être pas les magnifiques typographies qu'ils ont aujourd'hui. Bien sûr, il était impossible de relier ces points en regardant vers l'avenir quand j'étais étudiant. Mais 10 ans plus tard, en regardant en arrière, tout est devenu très clair. Encore une fois, vous ne pouvez pas relier les points en regardant vers l'avenir. Vous ne pouvez les relier qu'en regardant en arrière. Vous devez donc croire que les points se relieront un jour dans votre vie. Vous devez avoir confiance en quelque chose, votre intuition, votre destin, votre karma, peu importe. Cette approche ne m'a jamais déçu et elle a fait toute la différence dans ma vie. Ma deuxième histoire parle d'amour et de perte. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai découvert très tôt ce que j'aimais faire. Woz et moi avons créé Apple dans le garage de mes parents quand j'avais 20 ans. Nous avons travaillé dur et en 10 ans, Apple est passé de 2 personnes dans un garage à une entreprise de plus de 4000 employés avec une valeur de 2 milliards de dollars. Nous venions tout juste de lancer notre plus belle création, le Macintosh, et j'avais à peine 30 ans. Et là, j'ai été licencié. Comment peut-on être renvoyé de l'entreprise qu'on a créée? À mesure qu'Apple grandissait, nous avons engagé quelqu'un que je pensais très talentueux pour diriger l'entreprise avec moi. La première année, tout s'est bien passé. Mais ensuite, nos visions de l'avenir ont commencé à diverger. Finalement, nous avons eu un désaccord et le conseil d'administration a pris son parti. À 30 ans, j'étais dehors. Et très publiquement, ce qui avait été toute ma vie d'adulte avait disparu. Et c'était dévastateur. Pendant quelques mois, je ne savais plus quoi faire. J'avais le sentiment d'avoir laissé tomber toute une génération d'entrepreneurs. J'ai rencontré David Packard et Bob Noyce. Et j'ai essayé de m'excuser pour ce que j'avais fait. J'étais un échec public et j'ai même envisagé de fuir la Silicon Valley. Mais peu à peu, quelque chose s'est imposé à moi. J'aimais toujours ce que je faisais. Les événements chez Apple n'avaient rien changé à cela. J'avais été rejeté, mais j'étais toujours amoureux. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais le fait d'avoir été renvoyé d'Apple a été la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Le poids du succès a été remplacé par la légèreté de redevenir débutant, moins sûr de tout. Cela m'a donné la liberté d'entrer dans l'une des périodes les plus créatives de ma vie. Au cours des 5 années suivantes, j'ai fondé Next, une autre entreprise appelée Pixar, et je suis tombé amoureux d'une femme formidable qui est devenue ma femme. Pixar a produit le premier long métrage d'animation entièrement en images de synthèse, Toy Story. Et aujourd'hui, le studio d'animation le plus performant au monde. Dans un retournement remarquable, Apple a acheté Next. Je suis revenu chez Apple. Et la technologie que nous avons développée chez Nextest, aujourd'hui au cœur de la renaissance d'Apple. Et Lorraine et moi avons fondé une famille merveilleuse. Je suis convaincu que rien de tout cela ne serait arrivé si je n'avais pas été renvoyé d'Apple. C'était un médicament au goût amer. Mais je crois que le patient en avait besoin. Parfois, la vie vous frappe avec une brique sur la tête. Ne perdez pas la foi. La seule chose qui m'a permis de continuer, c'est que j'aimais ce que je faisais. Vous devez trouver ce que vous aimez. C'est vrai pour votre travail comme pour vos relations. Votre travail occupera une grande partie de votre vie. La seule façon d'être vraiment satisfait, c'est de faire ce que vous considérez comme un excellent travail. Et la seule façon de faire un excellent travail, c'est d'aimer ce que vous faites. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, continuez à chercher. Ne vous installez pas. Comme pour tout ce qui touche au cœur, vous saurez quand vous l'aurez trouvé. Et comme toute grande histoire d'amour, cela ne fera que s'améliorer avec le temps. Alors, continuez à chercher jusqu'à ce que vous trouviez. Ne vous installez pas. Ma troisième histoire parle de la mort. Quand j'avais 17 ans, j'ai lu une citation qui disait à peu près ceci. Si vous vivez chaque jour comme si c'était le dernier, un jour vous aurez très probablement raison. Cela m'a marqué, et depuis 33 ans, chaque matin, je me regarde dans le miroir, et je me demande si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie. Est-ce que je voudrais faire ce que je m'apprête à faire aujourd'hui? Et chaque fois que la réponse est non pendant trop de jours d'affilée, je sais que je dois changer quelque chose. Ce souvenir que je vais mourir est l'outil le plus important que j'ai trouvé pour m'aider à faire les grands choix de ma vie. Parce que presque tout, les attentes extérieures, l'orgueil et la peur de l'échec, disparaît face à la mort. Il ne reste que ce qui est vraiment important, ce souvenir que vous allez mourir. Et la meilleure façon que je connaisse d'éviter le piège de penser que vous avez quelque chose à perdre. Vous êtes déjà nu, il n'y a aucune raison de ne pas suivre votre cœur. Il y a environ un an, on m'a diagnostiqué un cancer. On m'a fait un scanner à 7h30 du matin et il a clairement montré une tumeur sur mon pancréas. Je ne savais même pas ce qu'était le pancréas. Je savais même pas ce qu'était le pancréas. Les médecins m'ont dit que c'était presque certainement un type de cancer incurable et que je ne vivrais probablement pas plus de 3 à 6 mois. Mon médecin m'a conseillé de rentrer chez moi et de mettre mes affaires en ordre, ce qui est une façon polie de dire « se préparer à mourir ». Cela signifie « essayer de dire à ses enfants, en quelques mois, tout ce que vous pensiez avoir encore 10 ans pour leur dire ». Cela signifie « s'assurer que tout est réglé pour que ce soit aussi simple que possible pour votre famille. Cela signifie dire au revoir. J'ai vécu avec ce diagnostic toute la journée. Plus tard dans la soirée, j'ai subi une biopsie. Ils ont introduit un endoscope par ma gorge, dans mon estomac. Puis dans mes intestins, ont inséré une aiguille dans mon pancréas et ont prélevé quelques cellules de la tumeur. J'étais sous sédatif. Mais ma femme, qui était là, m'a raconté que lorsque les médecins ont observé les cellules au microscope, ils se sont mis à pleurer. C'était une forme très rare de cancer du pancréas qui pouvait être guérie par chirurgie. J'ai été opéré et aujourd'hui je vais bien. C'est le moment où j'ai été le plus proche de la mort. Et j'espère que ce sera le plus proche avant encore plusieurs décennies. Ayant vécu cela, je peux vous dire ceci avec un peu plus de certitude que lorsque la mort n'était qu'un concept abstrait. Personne n'a envie de mourir. Même les gens qui veulent aller au paradis ne veulent pas mourir pour y aller. Et pourtant, la mort est le destin que nous partageons tous. Personne n'y a jamais échappé. Et c'est comme il se doit. Parce que la mort est très probablement la meilleure invention de la vie. Elle est l'agent du changement. Elle élimine l'ancien pour faire place au nouveau. Aujourd'hui, ce nouveau, c'est vous. Mais un jour, pas si lointain, vous deviendrez progressivement l'ancien et vous serez remplacé. Désolé d'être aussi direct, mais c'est la vérité. Votre temps est limité. Ne le gâchez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne soyez pas piégé par le dogme qui consiste à vivre selon les résultats de la pensée des autres. Ne laissez pas le bruit des opinions des autres étouffer votre propre voix intérieure. Et surtout, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Ils savent déjà, d'une certaine manière, ce que vous voulez vraiment devenir. Tout le reste est secondaire. Quand j'étais jeune, il existait une publication incroyable appelée « The Whole Earth Catalog », l'une des Bibles de ma génération. Elle avait été créée par un homme nommé Stewart Brand, pas très loin d'ici, et il l'avait remplie d'une touche poétique. C'était à la fin des années 60, avant les ordinateurs personnels et l'édition assistée par ordinateur. Tout était fait avec des machines à écrire, des ciseaux et des appareils photo Polaroid. C'était un peu comme Google au format papier. 35 ans avant Google, idéaliste, débordant d'outils et de grandes idées. Stewart et son équipe ont publié plusieurs numéros. Puis, quand ils ont estimé que le moment était venu, ils ont sorti un dernier numéro. C'était au milieu des années 70 et j'avais votre âge. Sur la quatrième de couverture du dernier numéro, il y avait la photo d'une route de campagne au petit matin, le genre de route que vous pourriez emprunter en autostop si vous êtes aventureux. Et en dessous ces mots, « Stay angry, stay foolish ». C'était leur message d'adieu. Stay angry. Stay foolish. Et je vous souhaite toujours cela. Merci à tous.
Nous, sur Edencast, on sait ce que l'on doit à Steve Jobs. Puisse-t-il reposer en paix ?